Bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez technique, mais crucial. Comment rendre les grands modèles de langage, les fameux LLMs, un peu moins imprévisibles?
Oui, bonjour. C'est vrai qu'ils sont incroyablement puissants, ces modèles, mais quand on les met sur des tâches complexes, par exemple en ingénierie logicielle pour corriger des bugs...
Eh bien, leur performance peut être très variable, c'est ça le truc. Une fois, hop, ça réussit brillamment, et puis les 10 fois suivantes, ça échoue.
Exactement. C'est un vrai casse-tête en pratique. Et justement, notre discussion aujourd'hui, elle s'appuie sur un article de recherche récent.
Oui, le titre c'est « Stratégie de recherche guidée dans des environnements non sérialisables avec application aux agents d'ingénierie logicielle ». Ouf !
Ah oui, c'est un peu long. Mais le point central, c'est cette notion d'environnement non sérialisable.
Alors, expliquons ça simplement. Ça veut dire quoi concrètement, non sérialisable ?
Ben, imaginez que vous testez un logiciel dans un environnement isolé, comme un container Docker par exemple.
D'accord.
Non sérialisable, ça signifie qu'il est très difficile, voire impossible, de sauvegarder l'état exact de cet environnement à un moment donné.
Un peu comme si on ne pouvait pas faire de save dans un jeu vidéo pour reprendre exactement où on était.
C'est une bonne image, oui. Et du coup, on ne peut pas facilement y revenir plus tard, même si on rejoue les mêmes commandes, les mêmes actions.
Ça ne donne pas forcément le même résultat.
Non, à cause de petits éléments aléatoires, ce qu'on appelle la stochasticité. Plein de choses peuvent varier légèrement.
Et ça, ça pose problème pour les techniques d'IA qui essaient d'améliorer les résultats?
Exactement. Beaucoup de méthodes de recherche efficaces, comme la recherche arborescente Monte Carlo, le MCTS.
Oui.
Elles fonctionnent en explorant plein de possibilités. Et pour ça, elles ont besoin de pouvoir revenir à des états antérieurs. De rembobiner, si vous voulez.
Ah, je vois. Donc, si on ne peut pas rembobiner...
Ben, ces méthodes sont beaucoup moins efficaces, voire inapplicables telles quelles.
Ok, c'est clair. Donc, notre objectif, c'est de voir comment les chercheurs de cet article ont réussi à contourner cette limitation.
C'est ça. Pour améliorer la fiabilité et le taux de succès moyen des LLM sur une tâche bien précise. Corriger de vrais bugs logiciels via le benchmark SW Bench Verified.
L'idée, c'est donc de rapprocher la performance moyenne de la meilleure performance possible qu'on observe parfois.
Réduire cet écart? Tout à fait. Le problème de fond, c'est vraiment cette variance énorme. L'article le montre bien. Le potentiel est là.
Le potentiel, c'est-à-dire...
Il mesure ça avec le passe-à-thème. C'est la probabilité qu'au moins un essai sur N réussisse. Et ce passe-à-thème est souvent bien plus élevé que le taux de succès sur un seul essai.
Donc on sait qu'il peut réussir, mais on n'arrive pas à le faire réussir souvent.
Voilà. Et si la tâche demande plusieurs étapes sans aide, la probabilité de succès chute très très vite.
D'accord. Alors comment on guide l'IA si on ne peut pas revenir en arrière? C'est quoi l'astuce?
Les chercheurs ont exploré deux stratégies principales. Et toutes les deux s'appuient sur un modèle critique.
Un critique? Un autre modèle?
Oui, un modèle spécifiquement entraîné pour évaluer la qualité potentielle d'une action ou même d'une solution complète. Et ça, sans avoir besoin de revenir en arrière.
Intéressant. Quelle est la première stratégie?
C'est l'anticipation à une étape, ou « one step look ahead ». À chaque moment où l'agent doit décider quoi faire,
oui.
Il ne génère pas juste une action, mais plusieurs actions candidates. Disons « cas action ».
D'accord, plusieurs options.
Et là, le critique entre en jeu. Il va estimer la valeur future probable, la « Q-value », de chacune de ces cas actions. Important, sans les exécuter réellement dans l'environnement.
Ah, astucieux! On évalue juste sur le papier, en quelque sorte. Quels sont les avantages?
C'est assez léger en termes de coûts dans l'environnement de test lui-même. L'évaluation se fait sur le texte des actions proposées, et on peut générer et évaluer ces cas options en parallèle.
Efficace. Et ensuite, l'agent choisit l'action que le critique a jugée la meilleure?
Exactement. Celle avec la Q-value estimée la plus haute.
Très clair. Et la deuxième approche?
Elle s'appelle... la sélection de trajectoire. Là, l'approche est différente. On laisse l'agent faire la tâche entièrement, mais on le fait N fois, en parallèle.
N fois. Donc on obtient N solutions complètes.
Oui, N trajectoires complètes, du début à la fin. Et c'est seulement après, une fois qu'on a ces N solutions finales,
que le critique intervient.
C'est ça. Le critique évalue la récompense finale estimée pour chaque trajectoire terminée. Et ensuite, on choisit simplement la trajectoire qui a obtenu le meilleur score du critique.
Donc là, on génère plein de solutions et on parie sur le jugement du critique pour choisir la meilleure. Ça vise directement à améliorer la moyenne, si je comprends bien.
C'est tout à fait l'idée. Et comme les N exécutions sont parallèles, ça n'augmente pas forcément le temps total pour avoir une solution, juste les ressources de calcul utilisées en même temps.
Bon, passons au résultat. C'est là que ça devient vraiment intéressant, non? Sur ce fameux SW Bench Verified.
Ah oui, les résultats sont frappants. Ils ont testé avec deux modèles, QN72B, un modèle ouvert, et GPT-2Word, un modèle propriétaire bien connu.
Et alors ?
Alors, chaque méthode prise séparément, l'anticipation à une étape ou la sélection de trajectoire améliore déjà bien le taux de succès. Mais quand ils combinent les deux...
Oui, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, ils ont réussi à doubler le taux de succès moyen, pour les deux modèles.
Doubler, carrément ?
Juste en ajoutant ce guidage par le critique.
Ça change vraiment la donne pour l'utilisation pratique de ces agents.
Absolument. Pour QN72B, la combinaison des deux stratégies atteint 40,8% de succès, ce qui était un nouveau record pour les modèles ouverts sur ce benchmark au moment de la publication.
Impressionnant. Et pour GPT-4o ?
Ça marche aussi très bien. L'amélioration est significative également. Et ce qui est intéressant, c'est que le critique n'avait même pas été entraîné spécifiquement sur les données de GPT-4.
Ah, donc le critique a une certaine capacité à généraliser son jugement à d'autres modèles.
Il semble bien, oui. Ça suggère que ce qu'il apprend sur ce qui fait une bonne solution est assez fondamental.
Et cette sélection de trajectoire, est-ce qu'elle sature vite ? Si on augmente N, le nombre de tentatives, est-ce qu'on plafonne ?
C'est un autre point qui m'a marqué. Non, apparemment pas dans la plage testée. Dans leurs expériences, ils sont allés jusqu'à N égale 15, voire plus.
Et ça continuait de monter ?
Oui, la performance continuait de s'améliorer. Plus on donne de choix aux critiques, plus il a de chances de repérer une trajectoire qui mène au succès.
Fascinant. Parlons un peu de ce critique. Comment on l'entraîne pour qu'il devienne si pertinent ? Ce n'est pas magique.
Non, bien sûr. Ils utilisent une technique d'apprentissage par renforcement, TD lambda. Sans plonger dans les maths, l'idée c'est d'ajuster un paramètre, lambda. Ils ont trouvé que lambda égale 0,7 donnait un bon équilibre.
Un équilibre entre quoi et quoi ?
Entre tenir compte des conséquences immédiates d'une action et anticiper les effets à plus long terme. C'est un équilibre classique entre biais et variance dans l'estimation de la valeur.
D'accord. Et il y avait autre chose d'important pour l'entraînement ?
Oui, le facteur d'actualisation, gamma. Gamma. Ils ont vu qu'un gamma élevé, proche de 1, était crucial.
Proche de 1 ? Pourquoi c'est important ?
Un gamma proche de 1 signifie que le clic-clic accorde presque autant d'importance aux récompenses futures lointaines qu'aux récompenses immédiates. En gros, ça lui dit « vise le succès final, même si ça prend du temps ».
Ah, et ça l'aide à apprécier des stratégies comme…
Comme inclure des étapes de test. Tester le code, ça ne donne pas de récompense immédiate, ça prend du temps, mais c'est souvent indispensable pour s'assurer que le bug est bien corrigé à la fin.
Je vois. Donc, le critique apprend à être patient et à valoriser les bonnes pratiques de développement.
C'est un peu ça, oui. Les analyses montrent d'ailleurs qu'il apprend assez vite à distinguer les trajectoires qui vont probablement échouer de celles qui sont prometteuses.
Bon, si on devait résumer le message principal de cette recherche.
Je dirais que c'est une belle démonstration que même face à ces environnements non sérialisables, qui sont courants en ingénierie logicielle...
Oui.
Ouais.
On ne peut pas mettre en place des stratégies de recherche intelligentes. Guidées par un critique bien entraîné, elles permettent de rendre les LLMs beaucoup plus fiables. On réduit drastiquement le facteur chance.
Le potentiel était là, latent. Mais ces techniques permettent de l'exploiter de manière plus systématique.
Ça rend ces outils moins tout ou rien.
Exactement. Et ça ouvre des perspectives pour des agents IA plus robustes, plus prévisibles, pour nous aider dans des tâches de développement logiciel de plus en plus complexes.
Pour conclure, peut-être une question pour aller plus loin, soulevée par les auteurs eux-mêmes. Ils mentionnent cette difficulté des environnements non sérialisables comme un obstacle majeur.
Oui.
Imaginons qu'un jour, on trouve un moyen de copier et de restaurer parfaitement, à volonté, l'état de ces environnements logiciels complexes. Quelles nouvelles capacités, quelles nouvelles frontières est-ce que ça débloquerait pour l'automatisation du développement par l'IA ?
Excellente question. Ça changerait radicalement la donne pour l'exploration et l'apprentissage. De quoi réfléchir, en effet.